Aujourd'hui, la masterclass de Suzanne Mézélas avec Caroline Brouet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ces masterclass de France Culture. Nous enregistrons cette émission en plein mois de juillet à Arles, dans la cour Fonton. Merci à vous qui avez bravé les éléments. En général, on dit ça pour quand il y a de la neige, mais là, aujourd'hui, c'est quand la température dépasse les 35 degrés, ce qui est le cas, même si c'est une heure encore matinale. Je suis très heureuse d'accueillir pour cette masterclass aujourd'hui Suzanne Mézélas, qui est une photographe américaine, née à Baltimore en 1948. Son père était médecin, sa mère éducatrice. Elle est entrée à l'agence Magnum Photo, la célèbre agence Magnum, en 1976. On la connaît, Suzanne Mézélas, essentiellement par ses images sur les zones de conflit en Amérique centrale dans les années 70 et 80. Elle y a passé une dizaine d'années, notamment au Nicaragua et au Salvador. Mais au fond, Suzanne Mézélas a couvert en quoi, quelques 50 ans de carrière, de très nombreux pays, de très nombreux sujets, des conflits sociaux à la violence domestique, des droits humains au rapport de pouvoir entre les hommes et les femmes. En d'autres termes, la vie ordinaire et les combats, la petite histoire et la grande. On pense à ces nombreuses séries, Carnival Strippers sur les stripteaseuses de foire en 1971. À chaque fois, ça a donné lieu à des livres devenus des classiques. Prince Street Girls, les filles de Prince Street sur les bandes d'adolescentes de son quartier à New York. Le Nicaragua, le Kurdistan également, The Shadow of History sur les Kurdes irakiens. Archives of Abuse sur les traces de la violence conjugale. On peut citer aussi Pandora's Box sur un club sadomaso de New York ou encore A Room of Their Own sur les foyers pour femmes battues. 9 ouvrages qui sont devenus des classiques, des photographies exposées dans les collections des grands musées du monde. Suzanne Mézélas a également reçu moult récompenses, dont le dernier prix, le premier prix Women in Motion à Arles pour son travail sur la condition des femmes et le regard singulier et engagé qui le sien. Il faut dire aussi, pour terminer cette introduction bien trop longue déjà, que Suzanne Mézélas a toujours beaucoup réfléchi à sa pratique, à la finalité d'une photographie, à son essence, à sa nature, à son appropriation et à sa transmission. Suzanne Mézélas s'était donc toute appropriée, bien sûr, pour une masterclass d'une heure sur France Culture avec nous. Women in Motion, ça veut dire, Suzanne Mézélas, que vous êtes sans arrêt en mouvement.
J'espère. There's your body that moves and there's your mind that moves.
Il y a le corps qui se déplace et il y a l'esprit qui bouge également. Donc je peux dire que mon corps doit bouger, de choisir d'être quelque part. Et ça, c'est la question clé. Où est-ce que je vais? Combien de temps est-ce que je reste? Quand est-ce que je reviens? Ce sont les questions qui me préoccupent sans cesse. Et de l'autre côté, il y a l'esprit qui est en motion de manière indépendante du corps. Et donc, dans ce sens, je pense que je suis toujours une femme en motion.
Cette dualité que vous décrivez finalement entre votre corps et votre esprit, on la retrouve sur un autoportrait de 1971 qui est une photo assez extraordinaire. C'est l'une de vos premières photos. Elle est en noir et blanc et on vous voit assise sur une chaise, enfin c'est même plutôt un fauteuil, à côté d'une petite table haute avec une plante verte. Et on vous voit à la fois là, vous êtes présente, mais à moitié invisible, comme une présence photo fantomatique. Est-ce que c'est votre définition de la photographie, présence, absence, passé, présent, ou bien c'est un autoportrait psychologique?
Ah, that's perfect question.
C'est une question parfaite. En fait, je pense que c'est les deux à la fois. Et je pense que quand je redécouvre l'image que je n'ai fait que pour préparer l'expo de Jeux de Paume, j'étais étonnée de la retrouver parce que c'était parfaitement symbolique de précisément mon état d'esprit et ma pratique de travail 40 ans après. Donc, comment est-ce que cela s'est avéré? J'ai fait un portrait de moi-même par rapport à là où je résidais. Et donc, je prenais une photo de chaque voisin dans cette maison où je logeais. Et je me disais que je devais en faire partie. Mais je préfère être invisible. Donc, il y a une tension toute ma vie.
Vous dites que vous n'êtes pas un miroir, plutôt une fenêtre. C'est une très jolie définition. Mais essayez de développer ce que ça veut dire, même si on comprend bien les choses.
Ça, c'est une référence à un livre, un concept de John Sikalski, qui à l'époque était commissaire au Musée de l'Art moderne. Il a fait un livre de photographes, il les définissait comme des miroirs ou des fenêtres. Et quand je l'ai vu, je ne sais pas exactement quelle année, c'était après mon début, le début de ma profession, au début des années 70, et je savais immédiatement là où je devais me placer. Je n'ai pas fait beaucoup d'autoportraits depuis, je ne me sens pas très connectée à la culture des selfies d'aujourd'hui. Je cherche toujours à comprendre ma propre relation au monde qui m'entoure.
Et plutôt d'aller vers les autres, c'est les autres qui vous intéressent. C'est d'abord de mettre en avant ceux que vous photographiez.
Je ne suis pas en déni de moi-même, mais j'ai dit également que je vois que les photographies sont le reflet de relations. Donc, beaucoup de mon travail vraiment porte sur le fait d'essayer de comprendre cette relation dans la création d'un objet qui est une photographie, qui est une belle composition, à qui c'est destiné exactement. Et encore cette tension, est-ce que c'est pour les personnes qui se trouvent dans la photo, pour qu'ils le reçoivent, ou est-ce que c'est pour les personnes qui regardent les photos, pour en profiter? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation triangulaire entre le photographe, le sujet et le spectateur? On se promène dans les rues, on voit des photos partout. À quoi pense-t-on quand on ressent les photos? Ça tourne toujours dans ma tête, c'est mon esprit en motion.
Et pourtant, vous dites, Suzanne Mezelas, que vous avez une démarche plutôt intuitive, que la façon dont vous prenez les photos n'est pas intellectuelle, elle n'est pas cérébrale. Quand vous prenez la photo, c'est d'abord une intuition. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec toutes les questions qui vous assaillent sur qu'est-ce que c'est qu'une photo, comment je dois la prendre, quelle relation? Comment on arrive à être encore intuitif avec toutes ces questions?
Parce qu'on ne résout jamais la question, donc ce n'est pas un lieu fixe où je me retrouve. Donc cela tourne dans mon esprit, mais l'intuition est également en contraste avec une photographie plus conceptuelle. Il y a une tendance aujourd'hui à diriger, à rejouer, à conceptualiser. Moi, j'ai l'impression que je travaille dans les cadres de réflexion, mais qui ne sont pas fixes, qui sont une réponse à quelque chose. Et ça, c'est un processus très intuitif. J'ai dit maintes reprises, les gens ne comprennent peut-être pas, mais par exemple, le projet du Kurdistan était le plus grand bond dans ma vie sur le plan conceptuel, puisque j'ai commencé avec une mission très spécifique de me rendre au Kurdistan pour documenter les villages détruits, les charniers de la campagne. C'était très clair ce que je regardais, ce que je cherchais, les preuves visuelles. Mais quand j'ai vu les personnes qui tenaient les photos, j'ai commencé à me poser la question. Je me demandais si on pouvait créer une histoire visuelle afin de se lier à cette division culturelle profonde. Et donc, c'est devenu un processus créatif, mais j'aurais pas pu avoir cette vision de New York ou de Paris. C'est venu de la rencontre sur place. C'est ce que j'entends par le fait d'être intuitif et ensuite trouver un moyen de faire le travail. Et bien sûr, tout dépend également des personnes que l'on croise. Il y avait un vieil homme qui a sorti une photo de sa poche et dans son portefeuille, il avait une toute petite photo d'identité qu'il portait d'une femme qui s'appelait Margaret George et qui s'était battue avec les Peshmerga au Kurdistan et qui avait été tuée. Il l'a porté sur lui, non pas parce que c'était sa fille, mais parce qu'il l'a porté comme une espèce de symbole. Et quand il a partagé ça avec moi, c'était un début d'une autre piste de réflexion. Qui avait pris cette photo? Qui garde les photos? Ce que signifient les photos en avançant dans le temps? Donc ces choses viennent d'interactions, je dirais.
Alors le Kurdistan n'est pas votre dernier travail, Suzanne Mezelas, loin de là, mais quand même, il est assez avancé dans le temps. Et comme on a fait des bons dans dans le temps, je voudrais qu'on revienne dans le passé, à vos débuts malgré tout, pour que vous nous racontiez comment tout cela a commencé. Bah, déjà, devenir photographe, pour vous, est-ce que c'était une intention ou est-ce que ça a été un accident?
Ouh. Un peu entre les deux. I think the important thing is because we live in such a different time,
puisqu'on vit dans une époque si différente où les gens définissent leur destination. Moi, je n'étais pas dans cet état d'esprit. Et donc, j'étais attirée par la photographie. Je cherchais à me placer avec l'appareil. Et j'ai parlé un petit peu de la puissance de cet appareil. C'était quelque chose avec lequel il fallait lutter. Et donc, c'était très maladroit au début. C'était pas difficile quand j'étais dans une salle de classe avec des enfants, des petits-enfants de 10 ou 11 ans. C'est là où j'ai démarré mon travail. Je découvrais avec eux même le quartier autour de l'école. Ça, c'était magique. Et j'adore cette partie de la photographie. Et je l'ai adoré très tôt, le fait de regarder les enfants qui rencontrent leur boucher, qui prennent une photo et après ils revenaient pour me raconter une petite histoire sur l'homme qu'ils venaient de rencontrer et apprendre à lire ce type de processus intuitif, organique, une éducation de ce type. Et l'idée de la carrière d'un photographe n'était pas vraiment dans mon esprit. C'est difficile. Les gens ont du mal à le croire, mais c'est ce qui a changé avec les stripteaseuses. Parce que d'un seul coup, je me suis vue dans un rôle différent. Peut-être que je canalisais à travers moi-même, à travers les photographies, et je transformais les histoires de cette manière. C'est vraiment ce qui m'a engagée. Ce n'était pas d'être photographe, mais comment est-ce que la photographie pouvait être un point d'engagement?
Ça veut dire, Suzanne Mezelas, que vous aviez quand même les deux qualités requises, sans doute, pour être photographe, à la fois ce don de regarder les autres, d'ailleurs de voir, d'observer le monde qui vous entoure et d'aller chercher le détail qui retient votre attention. Donc regardez déjà, écoutez ensuite pour que ces visions ou ces images que vous aviez sous les yeux prennent existence dans des histoires. Donc regardez et écoutez. C'est ça, deux qualités d'un photographe.
And respond.
Et la réponse.
Réagir.
Actually, Marta Gili said
je pense que Marta Gili l'a bien dit l'autre jour, le fait de voir, c'est écouter pour moi. Je pense qu'elle a raison. Quelque part, c'est le début d'un processus. Mais il faut quand même trouver ce qui est pertinent en tant que réaction. Je suis très consciente, même ici à Arles, les gens qui prennent des photos partout, ils ne cherchent pas de relations. Pour moi, je peux prendre ces photos, mais ces photos n'ont pas de sens dans le long terme. Moi. Donc parfois, j'aime déambuler et mon appareil photo est mon partenaire dans ce monde. Mais je pense que la valeur de plus long terme et plus profonde, ce sont ces expériences d'immersion. Et qui n'arrive pas toujours facilement. Il peut y avoir de longues périodes entre le fait d'être patient. Donc, pendant les périodes intermédiaires, peut-être que je me promène autour de là où j'habite, dans mon quartier, et je vois ce que je vois. Les gens parlent de la photographie comme une espèce de sport pour certaines personnes. La chasse, la récolte, obtenir. Moi, je suis plus en attente. J'attends. J'attends de me déplacer. Ensuite, je bouge.
En fait, vous êtes un félin.
Plus comme un chat qu'un lion.
Un félin, ouais, d'accord, un chat si vous voulez, un chat, Suzanne Mezelas. Vous dites en immersion, ça correspond à ce livre qui est un livre rétrospectif de votre travail qui s'intitule En première ligne et qui est apparu aux éditions Xavier Barral. Et je voudrais qu'on s'arrête un moment sur cette conception effectivement de l'immersion, c'est-à-dire la nécessité pour vous d'être au plus près de l'événement, et puis de cette différence dont vous venez de parler entre le fait de regarder, mais finalement sans voir ce que vous avez en face réellement, et le fait de pénétrer un univers. Et pour bien expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs ce que ça veut dire, peut-être prenons un exemple, l'exemple des Carnival Strippers, qui a été l'un de vos premiers reportages, documentaires, ces stripteaseuses que vous avez suivies pendant trois ans, trois étés, de 1972 à 1975. Et vous avez rencontré ces filles, vous avez passé du temps avec elles, ces stripteaseuses de foire. On voit dans les photos les rapports entre elles. On voit le pouvoir des managers. On voit celui des clients, la façon dont les photos font passer tous ces enjeux finalement de relations entre les êtres.
J'aurais bien
aimé avoir mes planches contact avec moi parce que j'aurais pu être.
On a quelques photos dans première ligne éventuellement.
Mais ce que j'entends, c'est que mon souvenir, c'est que lors de ce premier été, moi, j'étais à l'extérieur. Ici, nous sommes sur un plateau. On ne fait pas une performance comme les filles, mais vous êtes le public, comme le public dans la fête foraine. Et j'étais parmi vous, comme tout le monde. Mais j'étais fascinée. Je regardais ce que vous voyez, qui est la couverture du livre. C'est une femme qui s'appelle Nina, je l'ai découverte plus tard. Mais je regardais également les hommes qui regardaient les femmes. Donc il y avait beaucoup de dynamiques qui m'intriguaient de l'extérieur. Mais l'été suivant, même s'il y avait une interaction plus profonde, je suis revenue, le manager m'a reconnue. Les filles m'ont invitée dans leur loge. C'était un moment clé pour transformer cette opportunité d'apprendre à les connaître de manière très différente. Les tensions entre elles, les pressions qu'elles subissaient, les interactions entre le manager et les femmes. Plus la soirée s'avançait, plus ça devenait intense, plus elles étaient épuisées. Tout cela se voit dans leur corps. C'est très différent du début de la nuit, la fin de la nuit, la soirée. Ce sont les dynamiques que je regardais, que je recherchais, que j'apprenais à voir. Et puis, je pense que ce qui est important, c'est que dès le départ, je prenais le son que j'entendais, des choses qui ne me disaient pas à moi. Mais ils sont habitués, j'enregistrais presque tout. Donc, quand elles parlaient les unes avec les autres, j'enregistrais quand le manager rentrait dans la salle pour leur demander quelque chose ou quand elles parlaient avec les clients. Cette piste son est devenue très importante pour moi pour contrebalancer tout ce que je voyais, afin qu'elles puissent se définir elles-mêmes. Elles savaient bien exprimer tout ce qu'elles avaient à dire sur leur vie. Et donc, c'est la première façon dont j'ai montré le travail. C'est ça qui est important. Et ensuite, j'ai transcrit à la main ces enregistrements afin que l'on puisse créer un livre qui donnait ce narratif à l'intérieur, autour de ces photos. Donc, je cherchais une manière de créer un monde dans lequel pouvait pénétrer le lecteur. Et je pense, je ne me rappelle pas exactement la phrase, mais j'étais même très préoccupée à l'époque qu'un spectateur allait lire le livre avec un peu de distance et se sentir différent d'eux, mieux qu'eux, et avoir un jugement sur les personnes qu'il voyait. Donc, j'ai parlé de cette idée que même le fait de tourner la page d'un livre n'était pas très différent que les filles qui passaient à travers le rideau. C'est-à-dire qu'il y avait également la dualité de distance dont avaient besoin les spectateurs. Et donc, je m'intéressais toujours à ces moyens de confronter les spectateurs afin qu'ils réfléchissent à eux-mêmes par rapport au désir qu'ils voyaient jouer par les autres.
Suzanne Mezelas, la difficulté de rassembler une carrière comme la vôtre, c'est, je le disais tout à l'heure, le fait que vous avez à la fois photographié des vies intimes, des vies ordinaires, et puis des vies de combat, de conflit. On va partir dans un instant au Nicaragua, dans cette Amérique centrale où vous avez passé une dizaine d'années. Mais je voudrais encore qu'on s'arrête sur ces prémices et sur les premiers travaux en particulier, soit sur les filles de votre quartier, les adolescentes de Prince Street, soit sur ces stripteaseuses, en vous demandant si cette conception que vous avez de la relation et qui fait la photographie pour vous, elle a été nourrie, même si elle est naturelle chez vous, elle a été nourrie par des lectures de sciences sociales, d'anthropologie. Est-ce que vous considérez, par exemple, que vous faites un travail d'ethnologue ?
C'est toujours posé la question, c'est quoi la différence entre un ethnographe, un photographe, un touriste? On doit réfléchir aux relations. Il y a un peu de tout là-dedans. Je sais où se trouve la tension. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer autrement. Bien sûr, je peux être touriste innocente également, mais même dans certaines de mes expériences en tant que touriste, cela crée les questions qui donnent lieu vraiment des confrontations pour moi. Quand je faisais partie d'un petit groupe qui s'est rendu à Marrakech pour travailler avec les jeunes photographes à Marrakech, et cela a mené à chaque fois que je pensais prendre une photo, je me suis sentie rejetée par les personnes qui ne voulaient pas que l'on prenne de photos. Et je ne comprenais pas s'ils ne voulaient pas la photo ou s'ils pensaient qu'ils devaient être rémunérés pour la photo. Et beaucoup d'entre nous ont eu cette expérience. Donnez-moi un dollar. Est-ce que ça vaut un dollar? Qu'est-ce que ça vaut exactement? Donc, en réponse à cette expérience qui m'a paralysée pendant de nombreuses journées, j'ai créé un studio à l'extérieur où j'ai invité les femmes du marché des épices à Marrakech de décider si elles voulaient se faire photographier. Et j'ai fait ça avec elles. Ou elles me signaient pour que je puisse le montrer ou j'allais leur payer. Donc c'était une transaction. Elles devaient prendre la décision avant de voir l'image, la photo. Et c'était avec un appareil numérique. C'était il y a quelques années, nous avons fait le tirage et où elle le voulait, donc ils me l'ont donné, la signature, ou c'est moi qui leur donnais. Et donc, c'était une reconnaissance de la transaction. Et bien sûr, ce ne serait pas surprenant dans une journée de 7 heures, 70 personnes, plus ou moins, que 20 d'entre elles, je pense que 18 ou 20, voulaient préférer avoir le tirage plutôt que l'argent. Donc, pour moi, le fait de créer cette installation a fait réfléchir tout le monde à ce qui se passait. Ce n'est pas que ça les gênait d'être photographiées. Elles avaient l'impression d'avoir le droit à leur propre image. Et je pense que ça, c'est une question très profonde dans la photographie. Qui a le droit à l'image? Je ne me promène jamais en présumant que j'ai un droit. Donc, il y a beaucoup de tensions. Bien sûr, je fais partie de la famille de Cartier-Bresson. Et lui, c'était son délice. Et j'adore ces photographies, mais j'ai une psychologie différente. Peut-être un peu complexée, je ne sais pas.
Mais en plus, on ne se trompe pas quand on vous voit sur certaines images des années 70 ou 80, Suzanne Meselas. Vous avez au moins trois appareils photo autour du cou, hein, donc vos Leica, votre Leica que vous ne quittiez pas en tous les cas à cette époque-là. Donc on peut pas se tromper. C'est pas le petit appareil photo que vous avez dans une poche et que vous sortez au dernier moment. Est-ce que ce que vous dites sur ces femmes marocaines et l'approche que vous avez eue avec elles peut s'adapter à d'autres situations, en particulier à des situations de conflit? Et en particulier, on va en prendre une photo iconique et pour des bonnes raisons, c'est qu'elle est aussi devenue un symbole, la photo de l'homme au cocktail Molotov. Molotov Man, qui est devenu donc une icône de la révolution et qui a bien dépassé le Nicaragua, photo bien sûr prise au Nicaragua, et vous allez nous la raconter si vous le voulez bien. Est-ce que vous lui avez demandé, vous lui avez dit stop, est-ce que j'ai le droit de prendre une photo? Non. Alors comment on fait dans ces cas-là? C'est très différent, là, la situation.
Vous avez raison, le contexte est très différent. Moi, je dirais que c'est une photographie de la rue qui est un peu différente de ce à quoi je faisais référence. Et de manière étrange, puisque dans un conflit, les gens veulent être vus comme des protagonistes de l'histoire, on peut dire. Donc, ce n'est qu'une question de là où on se place. Souvent, dans une zone de guerre, vous pouvez aller au point le plus dangereux, il n'y a rien. Rien à photographier. Dans le cas de l'homme Molotov, à l'époque, je travaillais seulement avec deux appareils. J'avais un Leica en noir et blanc et un Leica couleur. La photo qu'ils ont de moi, c'est un peu plus tôt. Maintenant, je travaille avec un seul appareil. À l'époque, on avait besoin des deux pour le noir et blanc et la couleur. Et en fait, la manière dont je l'ai montré au jeu de pommes, on pouvait voir les planches contact du noir et blanc où j'ai loupé le moment. Et la couleur, ce sont les autres pigeons où j'essaie de l'obtenir, mais je n'ai pas de déclencheur automatique. Donc, je suis chanceuse d'avoir une photo sur les 20 que j'essaie de prendre avec deux appareils différents. Bien sûr, je ne la dirige pas. Bien sûr, je ne lui demande pas de s'arrêter en plein air. Non. Et je suis très chanceuse d'avoir saisi cette expression, la petite croix autour de son cou qui s'envole. Et ce moment du Molotov est devenu symbolique, non grâce à moi, mais parce que quand j'ai ramené les photos au Nicaragua, ils ont réclamé, revendiqué cette photo. Et lors de la première anniversaire, ils ont placé cette photo sur une boîte d'allumettes pour fêter la victoire. Et donc, c'est eux qui ont lancé l'image. Et ensuite, ça a vécu sa propre vie qui me dépasse et qui continue à me dépasser.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous êtes curieuse de savoir ce que deviennent vos photographies?
Well, not everyone, but of course I am really interested in this.
Mais bien sûr, je m'intéresse énormément à l'idée d'un sujet dans une photographie qui se voit au cours du temps. Ils avancent dans le temps et on voit ça surtout dans les Prince Street Girls. Elles deviennent progressivement des femmes et j'ai toujours une relation avec elles, même si ce n'est pas défini par le fait de prendre des photos. Leurs photos, c'est défini par le fait qu'elles même veulent toujours revenir vers ces photos. Donc, elles amènent leurs femmes et leurs filles et leurs enfants pour qu'elles les voient à l'âge qu'elles avaient, donc l'âge de leurs enfants. Et donc, on voit ça avec les images de la Révolution. Donc, la photographie, c'est un moment fixe que nous avons tous. Je me rappelle également quand j'ai vu une photo. Aujourd'hui, je pensais à Helen Levitt. Et quand est-ce que j'ai vu le travail de Helen Levitt, qui, bien sûr, était fait avant que je ne sois née? Et cette question de quand le travail des femmes a été exprimé pleinement comme ça l'est aujourd'hui pour tout le monde ici, afin que l'on puisse dire « Ah, ça, c'était Helen Levitt ». Mais pour moi, la question, c'est quand est-ce que moi j'ai vu une photographie d'Helen Levitt et qu'est-ce que j'ai pensé? Parce que je travaille dans mon propre quartier, très différemment d'elle, trois années avant. Donc, elle était ravie de voir les enfants qui jouaient dans la rue. Je suis sûre qu'elle avait une relation avec ses enfants. Mais c'était un petit peu différent de la manière dont je voyais ma relation avec ces filles, qui, à chaque fois que je les rencontrais, elles se transformaient. Donc, c'est ce qui m'intéressait, pas simplement le fait qu'elles jouaient à la corde à sauter dans la rue.
Je sais que Raymond Depardon, par exemple, aime particulièrement ce que la photographie ne dit pas, c'est-à-dire le hors-champ. Et vous écrivez, dès le départ, mon travail s'est fondé sur l'idée que le récit devait déborder du cadre de la seule image. C'est-à-dire laisser sa place à l'imagination.
C'est cette tension, encore une fois, puisque je pense que quand j'encadre un instant, j'essaie de saisir tout ce que je peux créer afin que d'autres puissent réagir. Mais ensuite, quand je rassemble mon travail, c'est là où je veux avoir une séquence, je veux créer un narratif, je veux créer un univers autour de ces images. Ce n'est pas une coïncidence que Raymond soit réalisateur aujourd'hui. C'est sa voix narrative. Donc, il laisse les photographes faire leur travail et il a également publié des livres. Donc, il connaît très bien le narratif. Et les droits lui appartiennent. Ce qui est intéressant, c'est que je n'écris pas, je capture les mots des autres afin d'appuyer mes photographies. Lui, il aime écrire un narratif autour de ses photos.
Et Raymond Depardon réalise des films également. Et je crois, Suzanne Mezelas, que justement votre éducation visuelle, c'est un bien grand mot, mais vous la devez en particulier au cinéma et au cinéma de Frédéric Wiseman. Il y a des films de Frédéric Wiseman qui vous ont particulièrement marqué. On est dans les histoires et on est dans la narration écrite, visuelle, et sonore. Racontez-nous cet amour que vous avez pour Wiseman.
Well, you know, I saw Tillicott Follies
very early. Tillicott Follies assez tôt. C'était au début des années 60.
Sur une institution carcérale psychiatrique.
C'était tellement puissant, très dérangeant. Et je réfléchis à cela maintenant. Peut-être que c'était le choc d'être interné ou amené dans une institution qui était inaccessible, inimaginable. Si on n'a pas vécu l'expérience à travers ce film, et donc peut-être que ça a joué un rôle en réfléchissant à ce qui est dissimulé, ce qui m'attire, ce qui est caché de la vue parfois. J'ai travaillé avec Fred comme éditeur assistant sur le film Basic Training. Et j'ai toujours pensé que le lien, c'était qu'en 68, j'étais jeune étudiante qui protestait contre la guerre. Donc, j'étais fascinée par la manière dont il était rentré faire ce film, Basic Training, qui révélait comment l'armée américaine était formée à tuer. Et donc, c'était une expérience très forte pour moi également. Et peut-être la coïncidence également que Fred n'est pas un cinématographe, c'est celui qui prend le son dans la création de ces films. Et donc, vous savez, quand on fait une soupe, je ne dis pas que je suis une soupe, mais vous intégrez différents éléments et on ne sait pas exactement comment ces différents éléments vont donner une arôme différente. Une saveur différente. Donc, je me demande toujours si j'étais née dans à une époque différente, j'aurais peut-être été réalisatrice et non pas photographe, parce que j'étais très attirée par une différente manière de raconter les choses. Donc, je compense depuis tout ce temps. J'ai adoré faire des films courts avec des caméras que l'on tient à la main, mais ça n'existait pas quand je photographiais des stripteaseuses. Si j'avais eu un iPhone en 72, un iPhone aurait été mon médium pour exprimer ce que j'avais à dire sur les stripteaseuses. C'est pas les photographies du tout. Donc la technologie crée sans cesse de nouvelles possibilités d'explorer.
Mais est-ce que ça veut dire, Suzanne Mezelas, que la photographie pour vous, c'est plutôt un point de départ qu'un point d'arrivée, puisque vous utilisez différents supports dans votre soupe. Hein. Effectivement, on retrouve la vidéo, on retrouve des collages, des matériaux d'archives, et on va en parler dans le rapport au passé que vous avez. Quelle place a-t-elle, cette photographie, puisqu'on vous considère quand même avant tout comme une photographe?
Well, you mentioned the collage. Vous avez évoqué les collages, et c'est vrai. C'est là où, pourquoi est-ce que je prendrais des photos qui existent déjà? Donc, quand je travaillais avec la police, et j'ai vu les dossiers des témoignages avec des tirages 4x6 très mal imprimés, je me suis rendu compte que mon idée de la création de photographies ne contribuait rien. Donc, j'essayais de trouver le défi à l'époque, c'était de créer, de sensibiliser le public sur la violence domestique qui, en 1990, ce n'était même pas un terme que l'on évoquait. C'était vraiment au tout début de la sensibilisation. C'était très caché. Je m'imaginais parcourir les rues de San Francisco en me demandant dans quel foyer il pouvait se passer quelque chose. Et si ça arrivait à son voisin, qu'est-ce que l'on ferait? J'avais même l'idée à l'époque de prendre des photos que je placerais, ça semble peut-être un peu étrange, mais dans les placards de grands magasins où on va essayer les vêtements et donc placer les images de femmes qui ont été blessées de différentes manières sur leur corps, donc les placer dans les cabines d'essayage. Mais les grands magasins n'étaient pas d'accord, mais je cherchais à comment combler cet écart, la distance entre nos vies. Donc la photographie reste un médium qui a un très grand potentiel de créer ce pont, mais les conditions doivent être établies. Et c'est pour ça que je veux que la photographie fonctionne en tant que telle, mais je suis consciente également qu'il faut un cadre pour le faire.
Vous évoquez ces photos de violence ou de traces de la violence domestique. On pourrait aussi évidemment parler du conflit au Nicaragua dans un tout autre d'autres registres, ou bien même du club Sadomaso à New York que vous avez photographié. Quel est votre rapport à la représentation de la violence?
Again, something new. There's so many different. These are different kinds
Il s'agit
of acts
de
violence.
Différents types de violence et ma propre rencontre avec ces actes de violence. Donc, le photographe au Nicaragua auquel vous faites référence, les conditions de la prise d'image, c'est important de l'expliquer, d'expliquer ces conditions. Bien sûr, je lisais à Nicaragua le fait qu'il y avait tous ces disparus. C'est quelque chose qui se passait au Chili, en Argentine et juste avant. Une idée qui était très éloignée de mon expérience. Et donc, je pense qu'à Nicaragua, quand je suis sortie de Managua, je n'ai pas vu d'abord le corps, j'ai d'abord vu les voitures qui tournaient autour. Et je me suis arrêtée, j'ai regardé, et ce qui est intéressant, c'était la route principale pour sortir de Managua. Donc, ce n'est pas par accident que je n'ai fait qu'une seule photo en noir et blanc avec mon appareil et une image en couleur, et ensuite je m'en vais. Parce que je suis terrifiée que l'on me voit en train de prendre les photos, parce que les photos deviennent témoignages. Et bien sûr, les témoins sont vulnérables. Et donc, j'étais tout à fait consciente en même temps qu'il y avait un paysage extraordinairement beau et l'ironie d'une moitié de corps mangée par les vautours, de quelqu'un qui ne pourrait jamais être réclamé par leur famille. Il portait un jean, clairement c'était un homme, mais autrement on n'avait aucun moyen de le reconnaître. Et sur cette colline, il y avait des morceaux de corps. Donc c'était une expérience très puissante. J'avais également le sentiment que c'était la seule photo que je pouvais prendre qui allait façonner cette distance, reconnaître cette distance, comment les Nicaraguains étaient en mode d'insurrection. De plus en plus, puisqu'il s'agit d'expériences très arbitraires où que les gens rencontrent sur la route, où quelqu'un est sorti de leur maison, et une fois que cela arrive, c'est ça l'acte de violence. Avant les résultats du corps qui se trouve sur la colline, mais chaque étape est violente pour la société. Donc je pense que pour ma société, le fait d'être une gringa, comme ils disent, ils ne comprenaient pas Nicaragua. On dit la violence, mais on ne comprend pas ce qui motive, puisque les gens ne choisissent pas simplement de perturber leur vie, et comme on le sait avec les caravanes aujourd'hui, les gens répondent à des conditions intolérable. Et ici, on transpire avec la chaleur des vents de l'Afrique du Nord, et la plupart des gens qui viennent vers l'Europe viennent de ces endroits où c'est insupportable d'y vivre. Et donc, nous souffrons de ce vent chaud, de la chaleur, et eux, ils déplacent leur corps en réponse, en réaction. Ils espèrent être plus en sécurité ici que dans leur propre pays. Donc, je pense que l'on a besoin de voir ces relations.
Et dans le cadre des violences domestiques et de ces traces de la violence que vous avez captées, est-ce que c'est différent, ce rapport à la violence, au sang, à la mort, au coup?
Encore une fois, je pense que je prends des photos à partir de ma propre expérience primaire. Je ne connaissais rien sur la violence domestique quand j'ai commencé à tourner avec la police. Ils recevaient un appel. Dans le cas de l'hôtel, ils recevaient un appel et on allait quelque part en voiture. Je ne savais pas où on allait. J'étais derrière dans la voiture. On descend de la voiture, on rentre dans la chambre d'hôtel. Le corps n'y est pas, les restes n'y sont pas, comme les restes y étaient sur la colline, mais ce que l'on voit, c'est le résultat d'un homicide. Il y a très peu d'informations, il n'y a pas d'ADN, etc. Mais ils commencent à reconstruire ce qui aurait pu se produire. Donc j'étais fascinée par ce travail des détectives. Il s'agit de ce qui est derrière une porte. Donc la photo est peut-être comme une porte, on l'entrouvre un petit peu.
Et là, on est dans le hors-champ, exactement. On est dans la façon dont chacun, regardant ces images, peut recréer l'histoire, ce qui s'est passé avant votre arrivée, avant que vous preniez cette photo. Est-ce que malgré tout, vous vous donnez, Suzanne Meselas, ou vous vous êtes donné, dans votre très longue carrière, des limites
Je me rappelle, par exemple, un moment à El Salvador où un jeune homme avait été presque mis à mort avec une hache et ils l'ont retrouvé. J'ai trouvé les personnes qui l'avaient trouvé, le ramené chez eux. Et j'ai arrêté de prendre des photos au moment où on rentrait dans la maison. C'était tellement horrifiant. Et je suis restée dans cette maison. Et à un moment donné, dans certaines situations, on ne peut que se rappeler, voici la leçon de la part de ceux qui vous aident à comprendre qui vous êtes à un moment donné. Ils ont mis en place des bougies, les fleurs. Et ensuite, ils voulaient que je prenne la photo. Donc, mes limites sont peut-être différentes. Mes limites, c'est attendre que c'est peut-être le bon moment de prendre une image dans certaines circonstances. Mais d'autres, quelqu'un d'autre verra peut-être que, en fait, c'est important pour nous. C'est une reconnaissance de la vérité, quoi que ce soit qu'ils s'imaginent. Peut-être qu'ils imaginent que cette photo aura beaucoup plus de pouvoir que cela n'en aura jamais. Et c'est une chose très difficile, ça ne changera pas la réalité. Ils ont perdu leur fils. Ce n'est pas une photographie que l'on met en son honneur sur le mur, ça, ce sera sa photo d'école, la vie que l'on, dont on souhaite se rappeler. Donc c'est un moment très curieux et il faut évaluer de manière spontanée, en réaction à ce qui semble sous votre propre peau, ce que l'on peut faire, ce que l'on peut proposer, je ne sais pas quoi dire.
Suzanne Mezelas, dans ces masterclass pour France Culture, on effectue une sorte de retour sur l'œuvre. On plonge dans le processus de création et de fabrication d'une œuvre. Un peu comme vous avez toujours aimé revenir sur les photographies et surtout avec les gens, auprès des gens que vous avez photographiés. Vous avez toujours voulu en savoir un peu plus sur ces personnes. C'est la raison sans doute pour laquelle vous êtes retournée au Nicaragua deux fois en 1991 et puis en 2004. Et puis il y a une jeune fille aussi que vous avez retrouvée. C'est très émouvant cette histoire, j'aimerais que vous nous la racontiez. C'est l'histoire de Nubia.
Eh bien, Nubia, c'était un si beau moment. J'avais une idée folle que j'allais prendre le livre que j'avais fait et 10 années plus tard, de revenir, de tourner les pages et voir si je pouvais retrouver les gens qui étaient dans les photos. Et le Nicaragua, c'est un tout petit pays. Et ça le reste. Je pouvais revenir à l'endroit où j'avais fait les photos et si la personne n'y habitait pas, quelqu'un savait où ils étaient. Et donc on les suivait, on les cherchait, les gens. Et puisque j'essayais de faire un film, on a en fait rassemblé ces rencontres, bref, sans vraiment savoir quoi que ce soit sur les gens qui étaient dans ces photos. Donc le fait de trouver Nubia était tellement fantastique. D'abord parce qu'elle habitait dans la campagne très éloignée et juste pour arriver vers elle, c'était un voyage que je n'avais jamais fait à travers des pistes. En traversant la vie quotidienne, j'adore le moment d'attendre que le chien lèche sa patte. Et moi, j'ai un peu peur de sortir dès la voiture et d'arriver d'interrompre sa vie. Et il y a Nubia. Et je ne savais pas qu'elle avait 14 ans quand j'avais pris la photo. Elle est beaucoup plus âgée à ce moment-là. Et elle regarde la photo, elle se rappelle le moment où elle m'a dit qui était son mari. Et que ce n'était même pas son mari, ce que je n'aurais pas su autrement. Elle le transportait sur une charrette à travers les rues. Et j'adore le moment où le fils lui pose la question, est-ce vraiment toi? Et elle touche son oreille et elle porte encore la même boucle d'oreille d'il y a 10 ans. C'est extraordinaire. Et elle prouve cela à son fils. Et je n'aurais peut-être même pas remarqué à ce moment-là qu'elle portait la même boucle d'oreille. Donc, elle remarquait dans la photo qu'elle lui avait acheté de nouvelles chaussures pour son enterrement. Et donc, pour Campesino à Nicaragua, c'est très coûteux. Donc, c'est la dignité de pouvoir l'enterrer avec de nouvelles chaussures. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas savoir seulement à partir de la photographie.
Est-ce que pour vous aussi, c'est une forme de reconnaissance de votre travail, ça?
Je ne sais pas exactement.
C'est pas une forme de fierté de voir que ce travail que vous avez fait, quand vous rencontrez à nouveau les personnes que vous avez photographiées, ça leur fait quelque chose et ça circule aussi entre eux. Donc, c'est un peu votre œuvre, c'est un peu votre travail. Donc,
I think it's not an accident.
Je pense que ce n'est pas par accident que ce moment de donner la Polaroid était si spécial. Quel est le cadeau que l'on peut donner en retour? Je pense que pour revenir aux Carnival Strippers, partager les planches contact, je voulais qu'elles me voient en train de les voir. Et même au Kurdistan, le fait d'utiliser ce film positif-négatif a rendu le processus transparent, que je n'enlevais rien, mais que tout le monde contribuait à la création de quelque chose. Donc, je pense qu'il s'agit de trouver des cercles d'inclusion de quelque sorte. Bien sûr, l'homme Molotov, je l'ai vu depuis et il est tout à fait conscient qu'il est là dehors quelque part, mais je ne sais pas s'il ressent, je ne sais pas quel est son ressenti alors que cette image est transformée par tellement de monde, de manière qui ne sont pas forcément en synchronisation avec ses propres sentiments. Je ne sais pas, peut-être qu'il est piégé pour toujours dans cette photo. Je pense que quand je rends une photo, c'est juste la geste. Ils continuent à vivre leur vie. Je ne pense pas que la photographie soit si importante à la fin. C'est une geste.
Est-ce que vous êtes sensible, du coup, à la reconnaissance, disons, plus périphérique, celle des critiques, celle du monde professionnel, et puis évidemment celle du public, avec près de 50 ans de carrière, Suzanne Mezelas, aujourd'hui? On peut dire que votre reconnaissance aujourd'hui explose. On le voit bien ici à Arles. D'abord, il y a du monde à l'assistance, alors qu'il fait quand même très chaud ce matin. Et puis, vous avez donné une sorte de conférence animée avec des photographies au théâtre antique il y a quelques jours, qui était une sorte de rétrospective dite par vous en images. La salle au théâtre antique était blindée. Vous êtes allé présenter devant le public votre exposition ici à Arles, à nouveau un public au rendez-vous. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. On pourrait presque dire que la reconnaissance est assez tardive. Est-ce que vous êtes sensible à la reconnaissance? Est-ce que vous êtes sensible au fait qu'elle soit tardive?
I thought you knew me better than that, Caroline.
Je pensais que vous me connaissiez mieux que ça, Caroline.
Mais non, mais le public qui vous écoute ne connaît pas.
I don't think you live your life to be awarded sometime whenever it happens to come.
Au moment où cela arrive, je pense qu'il faut vivre au sein du travail, croire dans son travail, que quelqu'un d'autre s'en préoccupe ou non. Donc, bien sûr, c'est étonnant qu'après 40 années au plus, ça ne fait pas encore 50 ans.
Presque, j'ai dit presque.
Mais je pense que c'est important puisque la culture, la motivation doit venir de l'intérieur. Il ne faut pas chercher la reconnaissance extérieure, je pense. Et c'est peut-être pour ça que les questions pertinentes sont: est-ce que quelqu'un à qui j'ai donné une photo, est-ce qu'il les garde? Est-ce que ça signifie quelque chose pour eux? C'est ça dont on parlait. Et je ne peux que proposer ce qui avait du sens pour moi en termes de pratique. Il y a beaucoup de manières différentes de venir à la photographie ou dont les personnes sont soutenues par la photographie. Je ne peux que partager la vie que j'ai menée dans la photographie et espérer que je puisse continuer. Je ne sais pas ce que je fais demain ou dans 2 mois ou dans l'année à venir, mais j'adore vivre avec le fait de pouvoir réagir à l'ouverture et ne pas me sentir obligée d'emprunter un chemin que j'ai déjà emprunté. Et donc, l'opportunité, et je suis très reconnaissante auprès de Martha Ginny de m'avoir donnée, c'est que je pouvais emprunter ma vie en zigzag à travers différents types de matières de rencontres, d'engagement, et espérer que cela révèle un chemin qui est peut-être un peu plus cohérent pour les gens qui me posaient toujours la question, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Une fille qui a pris des photos de stripteaseuses, qu'est-ce qu'elle fait au Nicaragua? Je ne pouvais pas vraiment répondre. Et heureusement, je n'ai pas cherché à répondre. J'ai juste cherché à être là où j'étais. Et je pense que c'est toujours le défi, juste être qui l'on est et espérer que l'on puisse rester fort à partir de cet endroit.
Martha Ginny, qui a dirigé le Jeu de Paume à Paris et qui a organisé la grande rétrospective de votre travail, Suzanne Mézélas. Vous étiez quand même, et vous êtes encore, à l'agence Magnum Photo. Et ce qu'on entend quand on vous écoute parler, c'est une vie d'une très grande liberté, avec beaucoup d'indépendance. Est-ce que le cadre de Magnum, cette agence qui est une coopérative, c'est la plus célèbre agence de photographie du monde et elle réunit les plus grands photographes, dont vous donc, est-ce que ce cadre presque contraignant de la coopérative de Magnum, finalement paradoxalement, vous a permis cette immense liberté dans votre carrière, tout au long de cette carrière?
Je dirais, la métaphore que j'avais pour Magnum reste vraie, je pense. Si on peut s'imaginer un port où il y a des bouées, enfin des ancrages pour les bateaux, je l'ai vu comme un ancrage. Je pouvais sortir d'une petite crique dans les mers et faire face aux éléments, quels que soient ces éléments, et revenir au port pour me reposer. C'est une métaphore qui reste avec moi. C'est une espèce de base référentielle. J'ai tellement appris de mes collègues. Ils me posent des défis de manière différente. C'est comme une famille étendue, on n'est pas proche de tous. Je vis dans les générations qui m'ont précédé, c'est ça qui était spécial par rapport à l'expo ici, c'est d'être avec Yves et Maggie Heyman. On était proches à un certain moment, à une certaine époque, et ensuite on s'est dispersé de manière différente. L'une des choses que nous avons fait récemment, c'était de rassembler avec la diversité chez Magnum aujourd'hui à un lieu. Je ne faisais pas partie du dernier rassemblement à la frontière, mais j'adore l'énergie de la diversité, la diversité de style, d'approche, de questions. Donc, je m'intéresse à cet aspect de la survie du communauté. Et Magnum, lors du 60e anniversaire, a créé la fondation Magnum. Moi, j'ai été beaucoup plus impliquée dans la création de la propagation de ce soutien vers les non-européens, les non-américains, vers cet autre monde afin de créer des opportunités. Donc, je suis très impliquée avec le talent émergeant ailleurs dans le monde. Ils rentreront peut-être ou peut-être jamais chez Magnum, mais Magnum leur donne des opportunités. Donc il n'y a pas de question que le travail que j'ai fait à Nicaragua n'aurait pas parcouru le monde sans Magnum. Ce que je ne sais pas, c'est si je n'avais pas rejoint Magnum en 76, qu'est-ce que j'aurais fait? Donc je terminais Carnival Strippers, je commençais un travail sur les Pères Noël parce que j'adorais le fait qu'ils pouvaient se déguisés, donc quand ils ne faisaient pas le Père Noël, ils étaient ailleurs. Donc je ne sais pas ce que j'aurais pu faire, ce que je serais devenue. Donc ça crée un nouveau chapitre pour moi. J'espère pouvoir faire le même pour d'autres.
Est-ce que dans ce monde où l'image est absolument partout, où nous sommes saturés d'images, où chacun peut prendre des photographies avec son smartphone notamment, mais aussi avec des appareils photo finalement, est-ce que dans ce monde-là, puisque vous parlez de survie de l'agence Magnum, le photographe aujourd'hui a encore sa place? Et vous qui avez enseigné la photographie, que peut-on apprendre à voir? Comment peut-on apprendre à regarder dans ce monde saturé d'images?
Well, one part of everyone having an iPhone.
Le fait que tout le monde a un iPhone, c'est pas parce que c'est Apple, excusez-moi, je ne fais pas de pub pour Apple. Mais l'idée que toute personne puisse être témoin de leur propre vie ou de la vie des autres, ça, c'est une idée très forte. Bien sûr, ce n'est pas partout dans le monde, mais progressivement de plus en plus. Donc ça, c'est une fonction qui est assez forte. Encore une fois, pour soi-même ou pour les autres. Le fait de témoigner, si le témoignage, c'est comme ça que l'on fait évoluer notre propre conscience sur nous-mêmes en relation avec un monde d'une inégalité profonde, c'est un outil puissant, c'est ce que l'on en fait. Ce n'est pas simplement de créer l'image, mais de placer les images. J'avais pour habitude de dire qu'il faut créer l'espace pour les images, non seulement les créer. Et donc, je pense que les jeunes l'ont fait. On ne sait pas combien de centaines de livres qui sont exposés sur 3 ou 4 différents lieux à Arles. Donc, les gens trouvent des moyens de rassembler leurs visions dans un format qu'ils peuvent partager autre que les médias sociaux, qui est un autre médium. C'est presque, on recherche des gens pour nous suivre. Ça ne m'intéresse pas vraiment, à moins qu'ils me suivent pour faire quelque chose d'intéressant. Et on pourrait peut-être utiliser cet outil de manière plus efficace dans ce sens. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
En très large partie. Suzanne Mezelas, ça fait presque une heure que nous parlons pour ces masterclass de France Culture. Et il y a une question que vraiment vous n'aimez pas qu'on vous pose. C'est la question d'être une femme photographe. Mais vous venez quand même de recevoir le premier prix Women in Motion. Alors je sais bien que vous préférez le In Motion que le Women dans le Women in Motion. C'est un prix quand même qui couronne une femme pour son regard sur les femmes. Est-ce que à aucun moment de votre carrière, vous vous êtes sentie une femme photographiant des gens ? À aucun moment, oui. Est-ce qu'à un moment, plutôt je vais tourner la question positivement, est-ce que vous vous êtes sentie femme à un moment ?
How could I? Well, I don't know. I don't. I can't exactly. I'm not trans.
Mais je suis pas trans, donc j'ai pas eu l'expérience d'être homme, comme si.
Eh ben voilà, on comprend très bien pourquoi vous n'aimez pas cette question.
J'ai juste été femme, donc c'est une expérience tout à fait primaire. Donc il y a des avantages que personne ne vous prend au sérieux pendant très longtemps.
Voilà, c'est une réponse. On va terminer avec les propos de l'historienne de l'art Shelley Rice, qui justement a animé une rencontre avec vous au Jeu de Paume en 2018 et qui présente très bien ce que vous êtes, je pense, aussi, Suzanne Mezelas. En parlant de vous, elle écrit, elle a pris des photographies sur le terrain, mais elle a également archivé des photographies des autres. Elle s'est avancée aux avant-postes de l'histoire sur la vague des révolutions, mais elle a également su faire un pas en arrière en faisant la chronique de la destruction, de la mort et de la perte. Elle a raconté des histoires de pouvoir et de médiation stratégique et recueilli des témoignages de personnes privées de leur droit de vote et opprimées. Elle s'est confrontée à la violence sous toutes ses formes, des guerres aux abus sexuels. Elle a interviewé des gens sur plusieurs continents, tant dans des communautés rurales que dans les villes, étudié les conditions de travail et les structures familiales. Elle a examiné les intérieurs domestiques et les albums de famille de celles et ceux qui vivent dans leur pays, mais aussi dans la diaspora. Alors, est-ce qu'au fond, Suzanne Mezelas, votre œuvre n'est pas un extraordinaire voyage à travers les nombreuses facettes de toutes nos vies humaines? Waouh, la question pour terminer. Ce silence en dit très long. Je vous remercie beaucoup, Suzanne Mezelas. Merci beaucoup. Et merci au public qui a assisté à cette rencontre.
C'était la masterclass de Suzanne Mezelas avec Caroline Brouet. Attachée de production, Nathalie Lempereur. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Clotilde Pivin.